que nous espérons d'ailleurs pouvoir avoir de nombreuses fois, parce qu'évidemment, malgré l'hospitalité très généreuse des archives, évidemment leur salle commence à être un petit peu juste pour nous. Donc nous sommes très contents d'être ici et nous y serons la prochaine fois également, le mois prochain. Chantal va vous présenter notre conférencière.
Et on peut dire ce qu'on fait le mois prochain, tant qu'on parle du mois prochain.
Voilà. Le mois prochain, c'est donc le mois d'avril.
Ouais.
Chantal et moi-même, nous allons vous présenter un crime à Collonges dans les années 1700. Donc je serai chargée de la partie juridique et elle de la partie historique.
C'est divers.
Ce crime pose des tas de problèmes. Variés. Alors ça se passe pas à Brive, mais vous savez, nous sommes une association corrézienne. Et comme nous débordons également sur le Lot, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Chantal Machère, je vous laisse présenter notre conférencière.
Voilà, donc je vous présente Madame Thérèse Delbac, qui vient exprès pour nous au Dourillac. Donc nous étions rencontrés il y a 2 ans, quand il y a eu à Aurillac le colloque des sociétés savantes. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes centres d'intérêt. Vous savez que j'ai fait pas mal de recherches sur l'émigration des Corréziens vers Cadix, l'Andalousie, et Madame Delbac, c'est plus général, je pense, c'est les Cantaliens en général, donc il y a beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire. Donc Madame Delbac, qui était enseignante, professeure d'histoire, inspectrice spécialisée dans les enfants handicapés, c'est ça ?
Handicapés et puis scolarisation adaptée.
Voilà, voilà. Et donc qui donc va nous présenter donc ses recherches sur les Cantaliens, l'émigration des Cantaliens. Voilà. Donc je vous laisse la parole.
Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Présidente et puis Madame Sauvignac de leur accueil. Je suis également très honorée d'être dans cette belle salle, hein, cette ancienne chapelle, qui a retrouvé finalement une fonction qu'on leur avait attribuée aux églises et aux chapelles lors de la Révolution. Vous savez qu'elles étaient devenues souvent des lieux de réunion de clubs. Donc voilà, c'est un retour aux sources et vous avez bien de la chance d'avoir des locaux comme ceux-là. Voilà, donc Madame Sauvignac ne vous a rien caché, elle vous a bien dit que nous nous étions rencontrés à Aurillac où elle avait fait une communication fort intéressante et ensuite au cours du repas nous avions échangé et j'ai donc, voilà pourquoi je me trouve à Brive, mais Brive et Aurillac c'est pas très loin, nous avons quand même des choses communes, ne serait-ce que des clubs de rugby par exemple, Et je tenais aussi à remercier l'assistance parce que vous êtes nombreux, vous avez su résister à l'entrée du soleil. Et j'ose espérer que ma petite communication vous apportera quelque chose, parce que c'est un sacrifice quand même. Voilà, alors donc je vais vous parler des Cantaliens qui ont migré, et bien sûrement pour les mêmes raisons que les Corréziens. Hein. Ils vivaient sur une terre qui était rude, avec un climat âpre, et souvent c'était des cadets qui partaient pour survivre, hein, tout simplement, ou pour aider toute la famille à passer l'hiver en attendant la soudure avec la future récolte. Ce sont des migrations qui ont été un peu curieuses, peut-être, dans le Cantal. Il y a les migrations donc, économiques, hein, c'est vrai, qui amènent les gens à revenir à la belle saison. Donc, très souvent, ils sont partis en tout premier lieu vers Toulouse. Hein, le bassin d'Aurillac est très tourné vers le sud-ouest. Donc là-bas, ils partaient comme chaudronniers la plupart du temps, et tameurs, puisqu'il y a une tradition de batteurs de cuivre sur Aurillac. Et voilà, ils passaient l'hiver ainsi. Ils allaient aussi dans la capitale, hein, parce qu'à Aurillac, on est un pays de droit écrit, une ville où on parle français, hein, ce qui était assez rare. Et on dépendait du Parlement de Paris, en fait. Donc ils sont très vite allés dans la capitale, où ils ont fait un peu de tout, porteur d'eau, enfin des petits métiers qui leur permettaient de survivre. Donc ça, c'était les migrations les plus modestes, je dirais. Hein. Et petit à petit, elles se sont organisées, ces migrations. Parce que celui qui partait, il a fini par partir en groupe, avec ceux qui partaient de chez eux. Il a fini aussi par trouver quelques pays qui s'étaient installés à Toulouse ou à Paris. Donc il y avait un accueil dans ces villes. Et ainsi, ça facilitait effectivement les déplacements et le travail. Hein, il y avait les deux. Mais bon, ça ne suffisait pas et ils ont fini par aller de plus en plus loin. Alors on a une destination un peu curieuse que j'ai découverte tout à fait par hasard au cours de ma vie professionnelle. Aux archives départementales où j'avais un service éducatif, un jour, on me demande de recevoir un journaliste breton. Bon, donc je dis un journaliste breton, c'était pas tout à fait de mon ressort, mais j'ai dit volontiers. Et ce monsieur était très intrigué parce qu'il faisait partie d'une chorale où il y avait beaucoup de gens originaires du Cantal. Alors, bon, un peu intrigué moi aussi, je lui dis « mais comment s'appelle-t-il ?» Et voilà, nous sommes partis sur une recherche, tous les deux, et on a découvert qu'il y avait eu une migration bretonne. Donc, une migration un peu curieuse, tout de même. Alors, ces Bretons, je les appelle Bretons parce que souvent, ils ne sont pas revenus. Ils sont partis en Bretagne, les Cantaliens, un peu plus loin, parce qu'il devait y avoir de la concurrence, et puis partir sur de nouvelles terres, c'est intéressant. Alors, on ne sait pas quel est le premier qui a décidé d'aller s'établir dans ces contrées, mais très vite, ça a fait tache d'huile. Et ils se sont installés, notamment près de Quimper, près de Pont-l'Abbé. Et là, ils ont eu un atout phénoménal, c'est qu'ils parlaient le français, comme je vous l'ai dit. En plus, à Aurillac, il y a une tradition assez étonnante aussi, c'est que les enfants aurillacois ont très vite été à l'école. C'était assez curieux, mais on a eu peur, je remonte un peu en arrière, mais on a eu peur de la réforme à Aurillac, et les jésuites sont arrivés dans le Cantal, et le Cantal s'est trouvé doté de 3 collèges de jésuites. Ce qui est exceptionnel, une densité comme ça. Et là, ils ont accueilli les enfants de la bourgeoisie, bien sûr, mais aussi des enfants de laboureurs, des enfants pauvres de la ville, et ils les ont instruits. Donc on a une population qui va à l'école, qui sait lire tant bien que mal, hein, faut pas non plus en faire des gros intellectuels. Ils ne sont pas intellectuels, nos migrants, hein, pas du tout, mais ils savent lire, ils savent écrire. Et donc en Bretagne, ça donne un atout phénoménal, parce qu'on parle breton. Et donc, ces gens qui arrivent présentent un certain intérêt. Alors, très vite, ils font du commerce. Et puis, comme ils sont un petit peu malins, ils vont faire la cour à quelques jolies bretonnes ou à des bretonnes bien nées qu'ils épouseront. Ils se sont beaucoup mariés à des filles de la bourgeoisie. Par exemple, les gens qui faisaient la dentelle à Quimper, des filles de magistrats... pas l'aîné des filles, hein, certainement pas, mais disons les plus jeunes en tout cas. Et ces gens-là vont devenir des notables bretons. Hein, ils vont très vite, leurs enfants en particulier, vont très vite réussir. Ils ne reviennent pas en Bretagne. C'est très rare. Il y a quelques coureurs, hein, ceux qui ont beaucoup de mal à survivre, qui sont colporteurs, qui vont de ferme en ferme quand on veut bien les accueillir, qui connaissent la pluie, le froid, qui quelquefois meurent en route. Ceux-là reviennent, c'est vrai, mais la plupart se sont établis donc autour de Quimper. Et quelquefois, ils ont abandonné même une première femme. On a trouvé des bigames qui avaient préféré leur femme bretonne et avaient abandonné leur famille. Alors, en Auvergne, on ne voit pas toujours ça d'un très bon œil, hein, ce départ en Bretagne. Et on a le cas d'un labourri qui habitait à Sournac. Vous savez, c'est toujours le même coin du bassin d'Aurillac qui migre, hein, ceux qui réussissent en tout cas. Et là, à Sournac, ce jeune homme fait savoir à sa mère qu'il veut épouser une bretonne. Il lui écrit, et la mère est furieuse, parce que bien sûr, elle avait pensé à une autre jeune fille. Et donc, elle s'y oppose. Et le fils lui répond que, ma foi, lui, il a pris sa décision et qu'il restera en Bretagne si elle s'oppose à ce mariage. Alors elle va céder. Malheureusement, l'histoire d'amour se termine très mal puisqu'elle meurt deux ans après, cette pauvre jeune fille. Et là, il épousera la jeune fille que voulait sa maman. Voilà, donc c'est un cas un peu particulier. Sinon, voilà, pour nos Bretons, c'est comme ça. La petite histoire raconte aussi qu'un des premiers ostréiculteurs de Bretagne a été un Cantalien qui s'appelait Ollier, hein, et qui était de l'Axentrie, de la région de Plot. Donc vous voyez, c'est assez curieux. Parce que les Cantaliens ne sont pas du tout attirés par la mer. Hein. Du tout, du tout. Ils n'ont jamais été marins, ils n'ont jamais été pêcheurs. Non, ce qui les intéressait, c'était plutôt l'administration. C'est vrai que ça rapportait plus et c'était sûrement moins pénible aussi. Voilà pour cette petite anecdote sur la Bretagne. Une autre petite anecdote, parce que finalement, c'est des choses auxquelles on s'intéresse. Il y a eu un destin un peu curieux d'Antoine Lapara. Il était jeune, hein, il avait 19 ans, il était avec son frère, beaucoup plus jeune, et puis un ami, et il était à la fête de Quimper. La fête de Quimper, au mois de mai, c'était ce qu'on appelait le pape-gaud. Alors le pape-gaud, ça consistait à tirer sur un oiseau qui se trouvait sur une tige de fer en hauteur d'un arbre, et il fallait faire tomber l'oiseau en question. Et ce pauvre garçon a joué de malchance, puisque c'est un des tireurs qui préparait son fusil, qui a malencontreusement perdu son arme, qui en tombant a lâché la poudre, et il a été tué à la fête du pape-gaud. Donc vous voyez, il y avait des risques quand on peut migrer des fois sur la route, mais il y en avait d'autres aussi au moment des loisirs. Voilà, donc ça c'est pour la Bretagne. Et puis ils vont de plus en plus loin, nos petits Auvergnats, ils vont partir par exemple en Belgique. Alors la Belgique, c'est aussi des migrations modestes, hein, je dirais, c'est aussi des chaudronniers. C'est des petits colporteurs qui, tant bien que mal, passent leur saison froide en Belgique et puis reviennent au beau jour. Ils reviennent, hein, les Belges, ils ne s'établissent pas. Et puis ils vont de plus en plus loin, donc ils vont aller jusqu'en Hollande. Alors en Hollande, c'est plutôt la région de Plo, la Xaintrie, qui va fournir ces migrants. Alors ils partent comme marchands, et puis ils prennent une spécialité, ils deviennent marchands de parapluies. Il faut dire que le soleil n'est pas trop de mise dans le plat pays. Hein. Ils vont bien s'établir, et ça marche bien, ces commerces. Et souvent, ils s'établissent en Hollande, ils fondent des familles. Et là, il y a encore un marchand de parapluies, par exemple, sous un passage couvert de la haie, qui s'appelle La Boirie, et qui est originaire de la région de Plot. Alors, il y a un petit village qui s'appelle Charmansac, dont le maire a organisé un jour un voyage en Hollande, et il m'a convié à y aller, parce que bon, il y avait une histoire avec son école, enfin bon, bref, il avait envie d'avoir quelqu'un qui pouvait un peu parler de tout ça. Et j'ai bénéficié de ce déplacement. Et là, ça a été extrêmement intéressant parce qu'il y a une association qui s'est fondée de familles d'origine cantalienne et ça a établi des liens assez forts à tel point qu'il y a 3 ou 4 personnes qui ont acheté des maisons dans le pays d'origine de leur famille. Et ils redonnent des prénoms français dans les familles à présent. Les petits-fils de ces dames et de ces messieurs que j'ai rencontrés porte des prénoms français, en particulier un prénom bien typique de chez nous, Géraud, qui souvent est transformé en Jérôme, hein, parce que Géraud, ça faisait bizarre. Bon, et puis, ils avaient pris des prénoms hollandais. Et là, maintenant, non, ils redonnent des prénoms français. Donc, ils sont très attachés à leurs origines, c'est intéressant. Et dans le voyage, il y avait un monsieur qui n'était jamais allé en Hollande. Il savait qu'il avait des cousins qui s'étaient établis à La Haye, qu'il y avait une usine de parapluies. Et ses cousins étaient célibataires et sans enfants. Et quand ils sont décédés, il est devenu l'héritier. Donc, il a voulu voir où vivaient leurs ancêtres. Et c'était extrêmement intéressant. Voilà, donc ça, c'est pour la Hollande. J'ai connu une dame aussi, dont la famille fabrique... Elle ne fabrique plus, ils se sont arrêtés maintenant. Les Dalbins, ils fabriquaient des parapluies en Aurillac. Elle est née en Hollande. Elle a passé sa jeunesse en Hollande. Et puis, elle est revenue ensuite dans le Cantal quand elle s'est mariée. Voilà, avec une enfance un peu difficile, parce que, bon, c'était un pays où les catholiques n'étaient pas toujours bien regardés, enfin, il y avait... voilà, on leur interdisait de fêter le 14 juillet, enfin, il y avait des choses assez difficiles par rapport à ses origines, et elle n'y était pas très heureuse, en fait. Voilà, alors, des fois, il y en a certains qui sont partis en Amérique du Sud, mais assez peu, c'était loin, bon... terre vraiment inconnue, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Et puis il y a l'Espagne, alors là je vais retrouver Madame Sauvignac, et puis sûrement vous-même, Avez-vous eu parfois des gens dans vos familles qui sont partis en Espagne? Alors, nous, on a deux sortes de migrants. Il y a les migrants qui partent à Madrid. Ils sont souvent boulangers. C'est difficile d'être boulanger parce qu'on fait une denrée qui s'adresse aux classes populaires. C'est une denrée dont le prix varie assez vite en cas de difficultés liées aux récoltes. Et ces classes populaires ont besoin de pain pour manger. Donc si le prix augmente, ça crée des tensions. Et ces boulangers madrilènes en ont fait parfois les frais. Alors il fallait s'installer, c'était compliqué comme tout. Il y avait des prête-noms souvent, parce qu'il fallait souvent un espagnol pour pouvoir posséder la boutique. Et alors vous voyez, c'était un peu, bon, pas toujours très honnête si vous voulez sur le fond, mais c'était quand même indispensable. Et ces boulangers madrilènes ont très vite eu bonne réputation, ils faisaient du bon pain. Donc ils ont quand même gagné leur vie. Hein. Bon, ils n'ont pas fait fortune, c'est certain, mais on dit que les rois d'Espagne aimaient beaucoup les croissants des Français, qu'il y avait même quelques rois de temps en temps qui allaient chercher leurs petites friandises dans les boulangeries madrilènes tenues par les Français. Donc on a quand même aussi quelques exemples à Madrid de gens un peu particuliers. Alors vous connaissez la reine d'Espagne. La reine d'Espagne est d'origine cantalienne. Voilà. Donc sa famille vient de la vallée de l'Autre, de Marmagnac. Et elle s'appelle Roxolane. Voilà, c'est le nom d'origine. Et nous avons à Crandelle, dont je vais vous parler, son cousin qui porte ce nom. Et il vit à Crandelle parce qu'il a épousé une Crandelloise. Voilà. Donc les origines sont là. Et elle le sait d'ailleurs, hein, je crois, tout à fait. Parce qu'ils avaient été invités d'ailleurs au mariage. Voilà. Elle ne renie pas ses origines, même si c'est très lointain et qu'elle ne connaît pas trop l'histoire de la famille. Alors là, par contre, ce que nous avons de très particulier, c'est ce qu'on appelle la compagnie de Chinchón. Chinchón, ça s'écrit C-H-I-N-C-H-O-N. Chinchón, c'est un tout petit village. Je vais vous le présenter. Alors, pas ça. Voilà. Alors là, c'est les environs de Chinchón. Vous voyez, là, c'est pris au printemps, enfin fin mai, cette photographie. Vous imaginez ce que ça donne l'été. Hein, c'est pas une terre très, très intéressante, quand même. C'est une terre difficile, qui est très sèche, c'est les plateaux de Castille. Et l'été, ils sont redoutables par la sécheresse, par la poussière qui s'élève du sol dès qu'on est en mouvement. Donc c'est là que se sont établis nos premiers Français de la compagnie de Chinchón. On peut peut-être aller un peu plus loin. Je ne les ai pas trop mises. Alors il y avait un château, je vous en reparlerai du château. Ça c'est le cimetière, hein, un peu plus encore. Je croyais avoir... Non, bon, mais écoutez, du village, on la verra plus tard. Voilà, très bien. Chinchón, pourquoi Chinchón? On ne sait pas trop comment ils y sont arrivés. On présume que dès le XIIIe siècle, il y a quelques aventuriers qui sont partis là-bas. Moi, ma famille est une des fondatrices au XVe siècle de la compagnie Chinchón. Mais il y a déjà au XIIIe siècle un acte notarié qui a été découvert par quelqu'un de la Société de la Haute Auvergne tout content, nous l'a présenté, il date de 1415, où on mentionnait l'Espagne. Donc sûrement, il y avait déjà des gens qui y allaient. Alors cette compagnie de Chinchón, elle s'organise au XVe siècle, c'est sûr, elle existe. Elle comprend au départ très peu de membres. Les membres fondateurs, ils étaient environ 14 ou 15. Et ce sont des personnes qui sont des colporteurs au départ. Ils partent de l'ouest de Dauriac, d'un petit hameau dont je vous ai parlé, Crandelle, d'où est originaire la reine d'Espagne maintenant, à son cousin qui y est établi. Et ce petit hameau va fournir donc des migrants vers l'Espagne qui passent les Pyrénées à pied, avec beaucoup de courage, parce qu'ils se font souvent attaquer, vous imaginez bien, c'est intéressant quand même, ils ont des marchandises, ils sont pas très nombreux, donc on peut tenter de les attaquer. C'est souvent dangereux quand même, Et puis, ils choisissent pas d'aller à Madrid. Ils préfèrent une petite ville où ils seront plus tranquilles. C'est Chinchón. Chinchón, c'est pas loin de Madrid. À l'heure actuelle, il faut 20 minutes en voiture. Donc, ça se fait aisément. Et ils vont... C'est entre Madrid et Tolède, en fait, à peu près. Et ils vont très vite réussir. Alors, ils vendent des tissus, au début. Et puis ils vont varier, mais ça restera quand même beaucoup le tissu. Mais surtout, ils vont prêter de l'argent. Dès qu'ils vont réussir, ils vont avoir cette idée, prêter de l'argent. Ils vont même en prêter au roi d'Espagne, qui, quand il est mal, se dit « Allez, il supprime les dettes, il faut s'arranger avec la compagnie de Chinchón. » Mais ils ont des raisons, hein, ils ont des raisons, parce que le prêt de la compagnie de Chinchón est très cher. Le taux d'intérêt, c'est au moins 30% quand c'est pas 60%. Donc, les Auvergnats aiment l'argent, hein, c'est connu. Et les Crandellois, c'est connu, ils ont bien aimé l'argent. Et ça agace tout le monde. Ça agace l'intendant d'Auvergne, qui râle toujours après les Crandellois. Il dit, on les appelle les Espagnols, hein, les gens de la compagnie de Chinchón. Et il dit, les Crandellois sont à moitié Espagnols, à moitié Français. Ils gagnent de l'argent, mais ils le cachent. Alors, ils achetaient des terres un petit peu comme les madrilènes boulangers, là. Ils les achetaient avec des prête-noms, vous voyez. Et ils faisaient leurs petits trucs comme ça. Bon, des fois, il y avait des mariages après avec les prête-noms, avec les filles. Bon, donc, ils s'arrangeaient comme ça pour cacher, en fait, leur fortune, parce qu'ils ont gagné quand même beaucoup d'argent. Ils en ont perdu aussi, il faut bien le dire. Alors, pour rentrer dans la compagnie de Chinchón, ça s'organise très très vite. Hein. Dès le 16e, c'est en place. Il y a environ 200 personnes. Ils finiront à 400. Pour être membre de la compagnie de Chinchón, il faut être apparenté à un membre. C'est une société familiale, si vous voulez. Donc, c'est souvent du père au fils ou du père au gendre s'il n'y a pas de fils. Pour rentrer, il faut donner 4000 livres. C'est quand même énorme. Hein. En gros, pour bien vivre, il fallait 300 livres à peu près par an. Donc vous voyez, 4000 livres, ça ne se trouve pas comme ça quand même. Hein. Bon, le père peut avancer. On peut aussi récupérer l'argent quand on s'en va. Mais il le demande assez peu. Il préfère avoir des parts supplémentaires. Hein. S'il y a un décès, par exemple, ils rachètent, si personne ne les veut, ils vont racheter les parts de celui qui meurt. Donc, voilà comment on y entre. Mais l'argent, ça se mérite. Les Auvergnats, ils savent travailler. Donc, on ne badine pas du tout dans la compagnie de Chinchón. On y fait fortune, c'est vrai, mais on le mérite. Alors, on part dans la compagnie de Chinchón environ quand on a 15-16 ans. À 15-16 ans, on part à pied, souvent, bon, après, au début, c'était à pied, ensuite, on avait un cheval, une mule, et on partait à plusieurs. On part la première fois pour 7 ans. Vous imaginez, la famille, elle voit partir un jeune adolescent, et elle va retrouver un homme. Hein ? Quand il va revenir, ce sera un homme. Donc, c'est très difficile pour ces jeunes garçons, très, très difficile. Ils sont toujours placés sous l'autorité du chef de comptoir, parce qu'il y a Chinchón et puis il y a plein de petits villages où ils se sont établis, hein, pour bien noyauter toute la population. Et on parle espagnol un petit peu, c'est vrai, mais on reste beaucoup entre Français. Ensuite, on va faire son apprentissage, hein, 15 ans, pendant 4 ans, apprentissage. On n'a pas un sou. Pas un sou. Ensuite, on a 100 livres. Et puis ça grimpe, ça grimpe. Hein. Les bénéfices de la compagnie, c'était minimum 150 000 livres par an. Donc vous voyez, on était un peu radin vis-à-vis des jeunes. Hein. Il fallait apprendre à travailler. Voilà. Donc, sous l'autorité d'un adulte, qui ne laissait pas passer grand-chose, hein, il faut bien le reconnaître. Alors on a des descriptifs, hein, de la vie de ces jeunes garçons. Et puis on a surtout un poète qui s'appelait Arsène Vermenouze, qui est un fait libre, qui a passé presque 30 ans en Espagne quand même. Hein. On l'oublie un petit peu, mais il a beaucoup souffert en Espagne, Arsène Vermenouze. Par contre, il avait été quand même assez bien protégé, puisque c'était ses, son oncle, qui était patron du comptoir des Viescas, où il était fixé, c'est pas très loin de Chinchon. Et donc, son oncle le protégeait beaucoup. Il voyageait avec quelqu'un de plus ancien quand il partait faire ses tournées pour placer ses tissus ou son argent. Hein. Et on lui avait... c'est amusant parce que les Espagnols ont une mémoire très sélective, comme nous d'ailleurs. Et donc, il parle encore de la jument d'Arsène Vermenouze. C'est passé dans la légende, si vous voulez, du pays. Ils se rappellent d'Arsène Vermenouze, ils ne savent pas bien son nom, hein, mais par exemple, ils savent qu'il y en avait un qui écrivait toujours sur des petits carnets, des poèmes, il écrivait sur des petits carnets. Et il avait une jument noire absolument fantastique. Et cette jument noire n'était pas commode, mais elle était extrêmement rapide, et c'était la façon dont son oncle le protégeait en cas d'attaque. Hein, il pouvait filer assez rapidement. D'ailleurs, il en parle de cette jument, il y tenait beaucoup. Pourtant, elle avait déjà 17 ans, hein, mais elle était en forme, et il a parcouru la Castille avec elle. Alors, Arsène Vermenouze, il fait son apprentissage comme il se doit, et puis il fait comme les autres. Après, quand il a l'âge voulu, et pour être vraiment membre de la compagnie, il va rentrer tous les 2 ans. 2 ans en Espagne, 2 ans en France, 2 ans en Espagne, 2 ans en France. Vous imaginez bien que chaque fois, il y a une naissance. Voilà. Hein. Ceci dit, dans la compagnie de Chinchon, on n'a pas énormément d'enfants. Il faut protéger quand même les biens de la famille. On ne va pas les disperser. Voilà. Alors, on se marie entre membres de la compagnie de Chinchon. Des fois, ça va gagner d'autres villages, hein, sans sac de Marmiesse, Citrac, tout ça. Bon. Et on se marie avec des Françaises. Attention! Surtout pas avec des Espagnols. Et Arsène en fera les frais, puisqu'Arsène Vermenouze va avoir l'outrecuidance de tomber amoureux d'une très jolie Espagnole. Alors il en est très amoureux, il lui envoie des poèmes, mais voilà, la jolie Espagnole est fiancée bien vite à un Espagnol, elle aussi. Alors elle est un peu embêtée vis-à-vis d'Arsène, qui lui envoie toujours des poèmes. Alors un jour, elle va ramener un poème au tonton, au tonton surveillant, là, et elle lui remet en disant « Je ne sais pas qui m'envoie ces poèmes. » Le tonton n'est pas dupe, hein. Donc il va sermonner Arsène, et Arsène ne s'en consolera jamais. Il ne s'est pas marié, il a toujours regretté son espagnol. Alors il y a des histoires d'amour qui semblent bien se finir, mais enfin, pas tant que ça. On a quelques cas un peu dramatiques. Il y a un Hippolyte Vermenouze, alors c'était des cousins Arsène, qui, lui, va aller jusqu'au bout. Il va épouser l'Espagnole. Et il est banni de la compagnie. Alors, banni de la compagnie, vous allez me dire, bon, il est reparti avec... Non, non, mais il repart avec zéro livre. Tout appartient à la compagnie de Chinchon, dans ce cas-là. Hein, c'est prévu par les statuts. Donc, il est ruiné. Mais ça fait rien. Il est avec la femme qu'il aime. Et donc, il va l'épouser. Il rentrera plus tard dans les chemins de fer espagnols. Et puis l'amour, ça paye pas l'amour. Hein. Il se fera écraser par une locomotive. Voilà, c'est triste quand même. Hein. Voilà, donc Hippolyte, ses enfants sont restés espagnols. Hein. Et un jour, un monsieur qui est légèrement plus âgé que moi, à Madrid, a rencontré tout à fait par hasard, enfin on lui a dit qu'il y avait un monsieur qui s'appelait comme lui. Alors, il a été un peu intrigué, et donc on les a présentés. Et en fait, c'était un descendant d'Hippolyte. Hein, donc, ils se sont retrouvés comme ça, et ont rétabli des liens. Alors, ces enfants-là, ils ont retrouvé la bourse du commerce. Ils ont créé les premiers grands magasins à Madrid. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont venus quand même au commerce, ce qui était la raison d'être des membres de Chinchon. Alors, il y a une autre histoire aussi... qui m'avait un peu touchée parce que voilà, c'est une Espagnole qui a attendu un enfant d'un Français. Ils n'étaient pas mariés. Hein. Et lui est mort, de maladie tout bêtement. Hein. Il est mort, donc elle s'est retrouvée avec cette petite fille. Il avait annoncé à sa famille, hein, on lui avait dit qu'il n'y a pas question que cette femme vienne à la maison, on n'en veut pas en entendre parler, tu sais ce qui arrive. Bon. Donc on en était là, et puis il meurt assez rapidement, et cette jeune femme est venue accompagnée du valet de son mari à côté d'un petit village qui s'appelle Messac. Ça ne s'écrit pas comme le vôtre, j'ai appris, hein, mais ça s'écrit M-E-2-S-A-C, c'est à 1 km de Crandelle. Et elle est revenue avec le valet, elle a tapé à la porte, la maman lui a ouvert. Après, la petite fille, c'était une petite fille, et et elle a refermé la porte. Donc, cette espagnole, elle avait fait le choix. Hein, ma petite fille, elle vivra bien, mais il ne faut pas qu'elle reste avec moi. Alors, donc, elle s'est privée de sa fille qu'elle n'a jamais revue. Et donc, je vous disais, ça m'avait touchée parce qu'un jour, j'ai trouvé le descendant direct, que je connaissais bien, le descendant direct de cette famille. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ils sont dégueulasses, ces gens-là. Je ne les connais pas, mais je n'ai jamais avoué qui c'était. Et je ne le ferai pas à ses enfants non plus, parce que tout le monde était indigné de cette histoire que tout le monde connaissait, quoi. Voilà, donc à Chinchon, on ne rigole pas, il y a des statuts, il faut les respecter, c'est une affaire française, on gagne de l'argent, mais c'est dur, c'est difficile. Arsène nous le dit, les plateaux de Castille avec la poussière, qu'est-ce qu'on avale? Enfin, il est complètement affolé, des fois l'hiver, il fait froid. Le vent s'engouffre sur ces plateaux, c'est absolument terrible. Donc c'est pas simple, hein. Et puis il y a l'éloignement de la famille, il y a tout ça. Alors comment ça se passait au pays? Parce qu'il y avait le pays quand même, hein. Il y avait les biens qui restaient, il y avait la femme, il y avait les autres enfants, enfin bon bref. Bien au pays c'est très simple. Quand le membre de la compagnie de Chinchon s'en va, il signe un contrat devant le notaire souvent. Et c'est sa femme qui devient l'administratrice des biens. Alors, on a un matriarcat dans cette région du Cantal qui est très fort. On a souvent dit que les Auvergnates étaient des femmes de tête, mais je pense que ça vient beaucoup de ça. Elles ont eu des responsabilités qu'on avait très peu ailleurs. Alors, elles vont faire tourner les affaires, mais imaginez quand le mari retourne au pays, 2 ans après, qu'il reprend tout en main. Il va y avoir des tensions familiales extraordinaires quand même. Hein. Mais bon, après tout, elle devait se dire, je ne sais pas si en 2 ans, il va s'en aller, ça ira bien. Donc, ça fonctionnait comme ça, et ma foi, pas trop mal. Et personnellement, j'ai eu un arrière-grand-père qui, lui, était tuteur de plein d'enfants. Alors, on me disait, en parlant de dames plus âgées, « Ah, ben c'était une tutrice d'Ambroise, c'était le prénom de mon arrière-grand-père. » Et je me disais, « Mais qu'est-ce que c'est tous ces enfants orphelins ?» Moi, j'avais 7-8 ans, un tuteur, pour moi, c'était quelqu'un qui s'occupait d'un enfant qui n'avait plus de parents. Donc on m'a expliqué, mais non, c'était les enfants des cadets qui partaient en Espagne. C'est lui qui avait la responsabilité de ses enfants. Donc il avait une très grande maison à Aurillac, et tout le monde a fréquenté cette maison, ce qui fait qu'on a des liens familiaux très larges, hein, très étendus, à cause de ce rapport. Hein, c'était souvent l'aîné qui, lui, ne partait jamais à Chinchon. Ce qui faisait dire aux autres enfants, c'est pas juste, nous on est privés de notre père, et vous, vous avez le vôtre. Et c'était toujours comme ça. L'aîné héritait, parce que comme on était en droit écrit en Auvergne, l'aîné héritait du maximum, tout le temps. Alors les autres, ils travaillaient à Chinchon, mais ils n'étaient pas sûrs de retrouver leur mise non plus. Alors la compagnie de Chinchon, je vous l'ai dit, elle a eu des soucis. Elle a eu des soucis avec les rois d'Espagne, tout simplement parce qu'ils avaient prêté de l'argent, et puis aussi pour la politique menée par la France envers l'Espagne. Chaque fois qu'on avait un conflit entre les deux pays, la compagnie de Chinchon, la pauvre, en prenait plein la figure. Alors ça se traduisait comment? On rentrait dans les comptoirs, hein, dans tous les comptoirs où ils étaient, en Castille, on s'emparait des registres, parce que c'était là que les dettes étaient consignées. Donc on les brûlait. S'il y avait de la résistance, on massacrait, il n'y avait pas de souci. Hein. Quand il y avait ça, souvent ils rentraient, hein, ce qui était prudent, mais il ne fallait pas que ça éclate du jour au lendemain, parce que sinon c'est vrai qu'ils avaient tendance à se faire massacrer. Ils vivaient trop isolés de la population aussi, hein. Je vous l'ai dit, ces hommes vivaient entre eux, fréquentaient assez peu, on leur interdisait l'alcool, on leur interdisait le jeu de cartes, donc il n'y avait pas de cohabitation réelle avec les habitants du lieu. Et comme il n'y avait pas de mariage, encore moins. Donc, voilà, des fois, ça se terminait tragiquement. Parfois, quand même, il y avait des gens qui leur étaient reconnaissants, qui les avertissaient du danger. Donc, ils avaient le temps de s'échapper. Mais à Chinchon, je vous ai mis ici les remparts du château de Chinchon. Eh bien, il y a eu un massacre à Chinchon pendant les guerres napoléoniennes. Donc ils ont envoyé les troupes françaises et le château a pris mal. Je pense qu'on peut peut-être voir quelques, une ou deux photos de plus. Non, c'est pas... Voilà, vous voyez là, effectivement, ça a été détruit. Il doit y en avoir au moins une autre. Non, non, tant pis. Mais enfin, ils ont tout détruit à coup de canon. Hein. Ça ne les a pas fait aimer par les Espagnols non plus, ça. Donc, quand je vous dis que la population a une mémoire sélective, il y a des raisons. Il y a des raisons. Alors maintenant, ils essaient de recréer des liens. Là, quand je m'y suis rendue, j'ai discuté notamment avec les gens qui tiennent le Parador, je vous le ferai voir tout à l'heure. Ils m'ont dit, on aimerait bien voir un petit résumé de cette histoire, parce que finalement, on ne la connaît pas, et ça peut intéresser les touristes, effectivement, de le savoir. Hein, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas retenu grand-chose. Il y a eu pendant longtemps des Français qui ont gardé quelques maisons là-bas, puis maintenant c'est fini. Ça n'a plus lieu, d'être. Alors, donc, il y a eu ça, il y a eu les séquestres aussi sur les biens, on a tout saisi. Alors après, ils reviennent, les Cantaliens, ils ne se découragent pas comme ça, hein, ils perdent, ça ne fait rien, on repart à zéro. Donc, en fait, ils ne repartent pas à zéro parce qu'ils ont des biens en Auvergne. Mais donc, ils ont quand même perdu beaucoup d'argent. Ils recommencent. Alors, comme on leur interdit souvent de refaire la même compagnie, ils font des petites compagnies après, hein, sur les comptoirs, mais c'est pareil, le système est exactement le même. Et ils font des procès. Ils intentent des procès pour retrouver leur argent. Alors, c'est très difficile. Les registres ont disparu. Enfin bon, en général, il y a quand même un geste qui est fait. Hein, l'État espagnol leur rembourse quand même quelque chose. Alors, les pires ennuis qu'ils ont eus, c'est en 1792, et puis sous Napoléon, bien entendu, où là, les conflits ont été tels qu'effectivement, ils ont été très perdants. Alors, ça va continuer, cette migration, jusqu'en 1914, comme par hasard. Hein. Alors, 1914, Première Guerre mondiale, ils vont rentrer. Hein, ils sont évidemment appelés à partir en guerre. Et ils vont accepter d'y partir, parce que dans le Cantal, on a une autre tradition, on est volontiers antimilitariste. Tous les personnels militaires, tous les responsables militaires des colonels hein, Aurillac, qui sont passés, ont toujours été frappés par ça, cet esprit particulier. Ça leur vaudra d'ailleurs des ennuis pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'on va faire comme avec les tirailleurs sénégalais, comme on sait qu'ils sont opposants, on les met en première ligne. Ce qui fait que le Cantal a une particularité, c'est la longueur des noms sur les monuments aux morts. Voilà. Mais bon, souvent ils ont déserté. Or c'était facile hein, pour la compagnie de Chinchon. On part en Espagne, on va faire du commerce en Espagne. Bon, aller faire du commerce en Espagne. Il ne fallait pas qu'ils se fassent attraper. Alors s'ils se faisaient attraper, c'était plutôt du côté de Perpignan. Mais ils étaient assez malins pour passer par Irun. Donc, ou par les Pyrénées, carrément. Hein. Et là, voilà, ils échappaient à tout contrôle, et ils étaient tranquilles, ils attendaient la fin des événements. Mais bon, 14-18, c'est la fin. Alors, elle avait évolué, la compagnie. Dès qu'il y a eu le chemin de fer, on a vu autre chose. On a vu des femmes, des jeunes femmes, qui suivaient leur mari. Et quelques enfants sont nés en Espagne. Moi, dans ma famille, j'ai connu... une grande-tante qui était née en Espagne. Et ses parents, ils sont morts d'ailleurs de la grippe espagnole. Parce que c'était pas toujours drôle en Espagne. On était malade comme en France. Hein. Et là, on n'avait pas toujours les moyens de se soigner. Alors, il y avait les Augustins qui pouvaient venir en aide. Mais il fallait surtout aller dans les hôpitaux à Madrid. Alors, à l'hôpital de Madrid, on a trace de Cantaliens qui sont morts. Hein. C'est vrai que ça arrivait assez souvent, malheureusement, compte tenu du taux de mortalité de l'époque. Voilà, alors donc il y a des dames qui sont parties avec leur mari de plus en plus. Et puis donc après la guerre de 14-18, vous savez qu'il y a eu de gros changements économiques. Le franc a perdu sa toute puissance, le franc or, et à partir de là, ils ne sont plus partis en Espagne. Ils ont réintégré leurs terres et tout s'est arrêté. Bon, c'est vrai que ça avait été quand même plus de 4 années catastrophiques. Les dons n'étaient plus les mêmes, notamment la pression démographique, compte tenu de la mortalité masculine, avait considérablement baissé. Et ils pouvaient rester sur leur terre et y vivre. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Voilà pour les migrations espagnoles. Donc. Alors je vais vous présenter Chinchón, j'ai quelques photos là si vous voulez bien. Donc il y a des gens qui ont été enterrés à Chinchón, bien entendu. Malheureusement, le cimetière de Chinchón a été refait. Donc on ne retrouve plus trop les traces, sauf une tombe que j'ai mise. Mais il n'y a pas le nom et c'est un peu dommage. Alors ça c'est l'église de Chinchón. Qui a une particularité, je vais vous l'expliquer quand on verra l'intérieur. Voilà, alors l'intérieur de l'église de Chinchón est assez riche pour une petite église comme ça. Alors une particularité, c'est le tableau que vous voyez au-dessus, là-haut, au milieu, c'est un tableau de Goya. Parce que Goya était le frère du curé de Chinchón. Et il y venait très souvent, en Madrid, c'était pas loin. Donc quand il avait besoin de se refaire une santé, il venait à Chinchón. Et voilà pourquoi donc il y a ces peintures, et en particulier ce fameux tableau, qui est une assomption. Hein. Donc voilà, j'ai photographié un petit peu. On retrouve alors l'influence de Crandel, c'est assez curieux. Hein. Alors les vierges, bon, vous allez me dire, dans le culte catholique, ça n'a rien de particulier. Ensuite... Voilà, donc vous voyez, on retrouve quelques... Alors ça, je ne sais plus qui c'est. Sainte-Thérèse, bon, qui est aussi... Il y a une Sainte-Thérèse à Crandel. Bon, l'église de Crandel est très jolie. On l'a un peu nettoyée avec un conservateur, parce qu'on est revenu à la pureté d'origine, si vous voulez. Hein. C'est le choix qui a été fait. Mais on retrouve des saints, c'est assez curieux. Alors ensuite, voilà. Alors ça, c'est la place de Chinchón. J'attire votre attention sur les balcons. Hein? Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont comme ça après. Si on prend la prochaine. Vous voyez, la place est ovale parce qu'elle se transforme en arène. Voilà, régulièrement. Toujours. Hein, je crois qu'il y a deux corridas maintenant seulement, mais il y en a toujours. Et les balcons, c'était les gradins. Donc il existe à Chinchón un droit particulier. C'est un droit de passage sur les balcons. Hein, quand il y a les corridas, les gens passent sur les balcons, de maison en maison, ils s'installent comme ils veulent. Enfin, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, cette particularité-là, on retrouve encore un boulanger, comme par hasard, qui a un nom français, à Chinchón. Alors, voilà le couvent des Augustins, qui est devenu un parador. Voilà, on peut avancer un petit peu, toujours la même vue. Et voilà. Alors, celui-là, je l'ai mis, parce que c'est un Saint-Roch, en fait. C'est pas une Saint-Jacques. Hein, on a mis un petit moment. Et alors, Saint-Roch, il a une particularité, c'est qu'il est très honoré à Crandel. Alors, bon, c'est le protecteur, vous le savez, pour certaines maladies, mais c'est aussi un gardien des troupeaux, un protecteur des troupeaux, comme Saint-Blaise. Hein. Et on retrouve un autre culte, mais alors apparemment, on l'a enlevé à Chinchón, et c'est un peu dommage. Mais c'est un saint qui est Saint-Barthélemy, qui est le patron de l'église de Crandel. Il n'y en a pas beaucoup de patrons comme ça, d'église qui s'appelle Saint-Barthélemy. Et à Crandel, il y a une statue espagnole d'un Saint-Barthélemy. Alors Saint-Barthélemy, vous savez, c'est un martyr qui a été écorché. Alors on le représente toujours, il a un morceau de peau sur l'épaule. Oui, c'est comme ça, on le représente comme ça. Donc, en Espagne, il avait un culte très fort, et on présume que cette église, elle s'appelle Saint-Barthélemy à cause des Chinchón. Hein. Vous voyez, on retrouve tout ça, et c'est assez curieux. Ça, c'était l'abreuvoir du château, qui est en fait un abreuvoir royal, on ne sait pas bien où il l'avait récupéré, mais enfin, voilà. Alors, ils l'ont mis sur la place, maintenant, il est très beau. Bon, donc je reviens un peu, voilà, sur le château, vous voyez, hein, ça n'a pas été redressé, bon, ça a dû s'écrouler avec le temps un peu plus, mais c'était un château assez conséquent quand même, hein, qui contrôlait bien les environs, vous voyez, cette vue s'étend, et vous pouvez voir les passages des troupes, surtout. Voilà, donc on revient au cimetière, voilà la fameuse tombe, qui est, paraît-il, une tombe de Français, mais on t'a expliqué des Espagnols. Mais en fait, l'ancien cimetière, on va peut-être le voir, voilà, il était là. Et ils ont élevé cette chapelle, et sûrement, il y a quelques restes français là-dessous. En fait, c'est devenu le parking du nouveau cimetière. Voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors, je vous fais voir une des châtelaines. Elle est péruvienne. Et cette dame, elle a amené la quinine. Voilà, donc elle méritait d'être connue quand même. Voilà, bon, ça c'est à l'entrée de l'église. Voilà la ville de Chinchon, avec la place. Vous voyez qu'à chaque fois on y tombe un petit peu dessus. Voilà, c'était quand même assez particulier comme architecture. Donc c'était une ville fortifiée, avec plein de petites rues où il y avait des échoppes des Français. Voilà, donc je voudrais peut-être revenir vers le début. Non, continuons si possible. Voilà, ça c'est les dernières. Ah, voilà. Alors les Espagnols, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont marqué l'architecture locale. Ils ont construit de belles maisons ou ont transformé celles qui existaient. Alors on a trois types de maisons en fait. La première, c'est celle-ci. On accède à la maison par un porche. Par un escalier, pardon, en hauteur. Donc ça, c'est un laboureur modeste qui a réussi. Hein? Voilà, la compagnie de Chichon. Chaque fois que vous avez un escalier, hein, c'est quelqu'un qui avait un petit bien, mais qui a prospéré grâce à Chichon. Suivante, vous voyez la montée. Voilà, alors, je vous signale que toutes les maisons ont été restaurées pratiquement par la famille Roxolane. Alors, particularité des maisons de Crandelle. Quand on trouve ainsi des cheminées habillées de bois, ces boiseries, c'est la compagnie Chinchon. C'est la signature de la compagnie. Ils ont ramené ça d'Espagne, de Chinchon justement, où les maisons ont ce genre de décoration. Alors c'est des placards bien sûr, et vous voyez qu'on a terminé avec le cantou. On est dans une autre aisance en fait, et on habille la cheminée, on fait une petite cheminée, voilà. Et ça c'est vraiment typique. Alors, on a ça dans pas mal de maisons, hein, en fait. Alors, une autre maison, là, vous voyez, il n'y a pas d'escalier. C'est la maison de maître. C'est-à-dire que là, c'était souvent le fils aîné ou quelqu'un bien installé dans la vie. Il y a juste quelques marches qui permettent d'accéder à la maison, mais elle est de plein pied, on peut dire. Donc voilà un autre type de maison. Alors, vous voyez, maintenant, on les restaure, toujours des lauzes, les pierres apparentes. Ça, on en pense ce qu'on veut. Hein, c'était pas comme ça autrefois. Voilà, et j'en avais mis deux au début, tout à fait au début, si on les retrouve. Alors, on va venir un peu en arrière, excusez-moi. Voilà, alors, ça, c'est les maisons surélevées. Alors, c'est un autre type. Elles sont souvent enterrées, vous le voyez, par rapport aux routes. Donc, de l'autre côté, c'est beaucoup plus haut. Donc, il y a au moins un étage. Et là, on a un peu roulé les mécaniques, on a fait carrément une petite tour qui abrite l'escalier. Elle est très jolie maintenant, elle a été entièrement refaite aussi, elle est vraiment très réussie. Et puis vous en avez une autre, vous voyez, pareil, surélevée. Ce que je voulais vous faire voir, c'était les balcons. Parce que nos balcons couverts, là, espagnols, de Chinchon, on les a remis sur ces maisons. La première que je vous ai fait voir avec l'escalier qui permettait d'accéder à l'habitation, on le retrouve ici et on retrouve le balcon. Et ça, c'est typique. Alors, on trouve ça en châtaignerie, mais la châtaignerie, c'est le sud du département. Mais là, c'est vraiment quelque chose de typique et de particulier, et c'est lié à Chinchon. Donc, vous voyez, l'Espagne nous a laissé quelques héritages. Voilà, pour en finir un petit peu, je vous dirais quand même que les migrations ont évolué. Après la guerre de 14, on n'a plus eu, effectivement... Alors, vous voyez, cette maison, elle est enterrée aussi. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne un étage. Alors, les migrations ont changé, et les motifs ne sont plus du tout les mêmes après la guerre de 14-18. Il y a encore des migrants, ce sont plus des individus. Ce ne sont plus des compagnies, des groupes organisés. Hein, ce sont des gens, ou des petits groupes en tout cas. Et j'ai essayé d'en faire une petite typologie. Trois types, j'ai pu dégager. Il y a des voyageurs qui vont voir leur famille à l'étranger. C'est le premier tourisme qui existe, un tourisme familial finalement. Et ça concerne quand même souvent des gens aisés. D'abord, il faut de l'argent pour voyager. Et en plus, il y a pas mal de femmes et qui partent avec des jeunes enfants, très jeunes même parfois. Donc, elles n'ont pas peur non plus, hein, parce qu'à l'époque, voyager comme ça, ce n'était pas du tout évident. On a une dame qui s'appelait Martis. Et les Martis, c'était des scientifiques, hein, des géologues notamment. Et elle, ils sont propriétaires d'un château, qui est le château de Cayac. Et elle allait, elle, volontiers en Alsace ou en Allemagne pour rencontrer le reste de sa famille. Elle a fait plusieurs voyages, elle a fait ses demandes régulièrement. On en a un autre, on a des enfants ou des ados hein, qui partent en Espagne pour voir leurs parents. Des parents qui sont en Espagne, mais à titre individuel, hein, c'est plus du tout la compagnie de Chinchot. Or, on a par exemple Pierre Bigot, qui était élève à Saint-Eugène, une école renommée d'Aurillac, une école privée, qui à 14 ans va rencontrer ses parents en 1916. Donc le papa, il avait dû se planquer un peu en Espagne, hein, voyez, parce qu'il n'aurait pas dû être en Espagne, je pense. Voilà, il y a Marie Lavor qui va voir son mari, qui est négociant à Albacete. Je ne sais pas quel âge avait Marie. Bon, il n'était peut-être pas censé être encore sous les drapeaux, lui non plus. Il y en a qui vont plus loin. Alors, on a une jeune Verdier qui part à Petrograd. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi elle est allée à Petrograd, mais elle n'a pas froid aux yeux. Elle a 4 enfants. Jacques, qui a 10 ans. Elle a Henri, qui en a 9. Pierre, 7. Et Serge, 3 ans. Et elle part toute seule, avec ses quatre enfants, à Petrograd. Bon, il y a le train, enfin, quand même. Il y a la comtesse de Miramont, aussi, qui voyage beaucoup avec sa fille et sa sœur. Voilà, il y en a d'autres qui vont encore plus loin, qui vont en Algérie pour voir leur papa. Et elle va en fait en Algérie, celle-ci, pour présenter sa petite fille. Vous voyez, on est quand même, les liens familiaux sont forts. Et quand une nouvelle génération apparaît, il faut que tout le monde la connaisse, quoi. Donc elle est partie en Algérie quelques mois pour ça. Voilà, mais encore beaucoup quand même vers l'Espagne. Et puis alors, il y a une nouvelle catégorie de voyageurs, c'est ceux qui veulent apprendre une langue étrangère. Ça a commencé très tôt, en fait. Hein. Donc, j'ai trouvé quelques cantaliens comme ça. Marie-Louise Aurière, elle est institutrice à l'école de garçons de Plot. Vous voyez, Crandelle, Plot, hein, c'est les berceaux de ces migrations. Donc, elle va à Burgos pour apprendre l'espagnol. Alors que l'accentrice, elle est plutôt en Hollande, mais bon, pourquoi pas, hein. On a deux jeunes filles qui partent aussi en Espagne. Elles ont 17 et 14 ans, les Duquerre. Elles vont apprendre l'espagnol. Bon, elles veulent être enseignantes, pourquoi pas. Il y a Jean Bessière qui va en Turquie, lui. Il va apprendre le turc en 1898. Bon, pourquoi pas. Il était professeur agrégé de philosophie, lui. Mais il va en Turquie. Il y a aussi un professeur d'anglais qui part dans le Devon en 1894, par contre. Et puis alors, il y a un réseau assez bizarre d'institutrices, des très jeunes filles, qui vont partir en Pologne et en Russie. Elles sont originaires d'un petit bourg qui s'appelle Marcoles. Et c'est assez curieux, on ne sait pas bien, mais elles en trouvent un filon. Elles partent pour faire... institutrice, préceptrice plutôt, hein, de famille noble, auquel les parents veulent, enfin les enfants vont apprendre le français, c'est la langue de la culture encore à cette époque, donc c'est très bien d'avoir ces jeunes filles. Mais alors ce sont des filles de menuisier au départ, hein, les premières. Alors il a eu quand même l'audace de les laisser partir, hein. Et elles sont toutes jeunes. Et la première, elle part en 1890, elle part à Varsovie, elle a 19 ans. À 25 ans, elle va gagner la Russie. Elle reviendra ensuite à Varsovie, et elle y restera, elle ne reviendra pas à Marcoles. Et puis il y a une petite sœur, Célestine, elle va partir à 15 ans en Russie, hein, à Petrograd. Et elle va y rester pas mal de temps. Ensuite, elle ira à Odessa. Et en 1901, on sait qu'elle y est toujours. Et elle reviendra finir ses jours à Marcoles. Et quand on visite Marcoles, on vous dit toujours « c'est la maison de la Russe ». Maintenant, c'est un petit-fils, je crois, qui est astronome, d'ailleurs, je ne sais plus trop dans quel pays, qui vit en vacances. Et on l'appelait la Russe parce qu'elle s'habillait comme les Russes. Hein, elle avait gardé cette tradition de, pour se vêtir. Donc les enfants du village, ah la Russe, bon, donc ils se moquaient un peu d'elle. Et donc elle a fini sa vie, elle, à Marcolès. Et puis il y a des touristes. Alors les touristes, ils ont un but plutôt religieux. Il y a beaucoup de prêtres qui partent sur des lieux saints ou pour découvrir de nouvelles églises, comme l'église hongroise, par exemple. Alors, il faut savoir que la Hongrie avait eu des liens forts avec le Cantal en l'an 1000, avec notre pape Sylvestre II, qui a créé l'église de Hongrie et qui a fait monter sur le trône le premier roi de Hongrie. Donc, il devait y avoir encore des liens forts entre l'église locale et l'église de Hongrie. Enfin, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, ils sont plusieurs à partir en Hongrie. Voilà, c'est encore un réseau qui existe. Sinon, eh bien, il y en a beaucoup qui partent en Terre Sainte. Bon, ça peut se comprendre, c'est un pèlerinage, finalement. Voilà, et puis, alors, il y a des francs-tireurs. Moi, je les appelle les francs-tireurs, des gens audacieux qui vont faire des fois un peu n'importe quoi, mais finalement, on ne sait pas bien ce qu'ils deviennent. Il y a un François Laverne qui est parti à 22 ans élever du bétail près de Moscou. Pas bien ce qu'il a fait après, hein, on ne sait pas. Antoine Denis, à 36 ans, c'est un artiste lyrique. Alors, il a choisi de partir dans les pays arabes. On ne sait pas ce qu'il est devenu non plus. Marie-Pierre Delzon, elle, elle est allée ouvrir une boutique de modiste à Constantinople. Voilà. Donc, en 1904. Hein. Un autre qui part à Sumatra en 1894, on ne sait pas bien ce qu'il va y faire. Il y a des conducteurs de travaux qui partent en Algérie, il y en a deux. Bon, des ouvriers en parapluie, alors cette fois-ci ils ne vont pas en Hollande, ils vont ouvrir une affaire à New York. Apparemment ils y ont réussi. Voilà, donc, et puis il y a des avocats aussi qui vont partir en Russie, vous voyez, la langue française devait être très recherchée. Donc des choses variées, mais comme on peut les trouver ailleurs. Hein, des gens qui fuient peut-être pas la misère, mais en tout cas des difficultés de vie certaines. Ces petits agriculteurs de Crandelle auraient bien peiné, je pense, s'ils étaient restés là, sous la houlette de leurs aînés, hein, ouvriers agricoles toute leur vie. Bon, ils ont échappé à leur destin grâce à la compagnie Chinchon, mais avec des conditions de vie difficiles, même s'ils ont gagné de l'argent. Et on dit souvent qu'à Crandelle, il y a des très belles maisons, mais c'est dû aussi à leurs sacrifices et à leurs efforts en terre hispanique. Hein. Voilà, donc, déjà entreprenants, c'est certain. Cette compagnie, elle est assez unique. Elle a réussi, elle a aussi connu de sévères déboires, hein, il faut le savoir. Ça a marqué l'histoire locale, mais elle se perd aussi. Et à Crandelle, par exemple, un jour, j'ai découvert avec stupeur que l'école de Crandelle portait un nom complètement idiot de typologie locale, mais j'ai dit, mais la compagnie Chinchon. Alors on se bat à l'heure actuelle, on a un projet de fresque, au moins pour que les enfants, parce que Crandelle c'est devenu comme beaucoup de villes, de petits villages proches des villes, il y a eu beaucoup de constructions nouvelles, et ces enfants qui sont là maintenant ne connaissent rien à l'histoire de Crandelle. Donc au moins les intéresser, hein, peut-être par une fresque qui va les interpeller, et faire réfléchir sur ce qui s'est passé dans le village bien avant eux. Parce que nous sommes des passeurs aussi en tant qu'historiens, et il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions, des remarques à me faire, des choses à me communiquer même, parce que je sais que souvent vous savez plein de choses. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, surtout. Oui, vous avez eu, je pense, des Espagnols dans vos familles qui sont partis aussi. Alors, racontez-moi un peu.
Voilà. Donc, vous nous avez parlé de cette compagnie de Chinchon, qui était quelque chose d'extrêmement organisé. Moi, je n'ai pas retrouvé d'équivalent en Hongrie. Donc, ce qu'on retrouve d'un peu équivalent, c'est un petit territoire de départ. Chez nous, en Corrèze, ben, c'est juste le plateau de Roche-de-Vic, en gros, hein, qui va partir. Ils vont se fixer plutôt sur Cadix, bien qu'on en trouve un petit peu partout en Espagne, mais le gros des troupes, c'était Cadix. Il y avait une véritable communauté de gens de Bénin, d'Albussac et tout ça. Par contre, ils ont été peut-être moins courageux que les Auvergnats, parce qu'une fois passé les problèmes de la Révolution et de l'Empire, ils ne sont pas retournés, c'était fini. Entre autres parce que, bon, quand même, l'Espagne, c'était moins intéressant. Hein. Il y avait, la situation économique était moins bonne au XIXe siècle qu'auparavant. Et moi, je n'ai pas trouvé donc de structure aussi bien organisée. C'est-à-dire que l'émigration morésienne, c'était une émigration familiale, ça c'est sûr. On voit un premier frère qui part, il reste 5, 6 ans, 7 ans aussi. Et puis ensuite, c'est un jeune frère qui va prendre la suite, le même travail. On voit que certains sont obligés d'emprunter de l'argent pour partir. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a cette organisation très pesante que vous avez décrite là, qui pèse aussi sur le travailleur qui n'est même pas payé, si on comprend bien, au départ. Quoi. C'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi, cette histoire de compagnie de Chinchon. Donc, c'est, on est...
En plus, si je peux me permettre, c'est qu'il devait payer 400 livres pour commencer. Pour
partir, ouais, voilà. Alors, nous, on voit des Corréziens qui empruntent... Pardon.
C'est un peu une affaire.
On dirait, hein.